chapitre 8, 23, 1 roi 8, 23, 24. Donc c'est Salomon qui prie. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes alliance. Quelle alliance? On pourrait voir l'alliance avec Abraham. On pourrait voir aussi l'alliance avec Israël du temps de Moïse, mais là, si on voit alliance avec Abraham, tu gardes alliance, c'est la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. On pourrait voir aussi l'alliance qu'il a fait avec David. Mais là, et ce que tu as déclaré de ta bouche, ça c'est le dire, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. C'est le faire. Il y a deux lignées de ce que Dieu fait dans la Bible. C'est il parle, il dit, et aussi il fait. Dans les 22 séances de cette version du cours, nous accentuons ce que fait Dieu, ce qu'il fait pour accomplir son dessein. Nous n'accentuons pas ce qu'il a dit dans les psaumes, dans les prophètes et tout ça. Donc, nous avons maintenant une grande nation, mais la question qu'on a posée à la fin de la dernière séance, qu'on repose, comment est-ce que cette grande nation va accomplir l'ultime but de Dieu? L'ultime but de Dieu, de remplir la terre de sa gloire. Voici le but intermédiaire accompli, la promesse, je ferai de toi une grande nation, c'est fait. Mais comment Dieu va-t-il accomplir le but ultime, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, et j'aurais pu mettre aussi l'application qu'on suggère pour cela, des hommes et des femmes qui aiment Dieu avant tout et qui s'aiment entre eux, premier commandement, deuxième commandement. Comment est-ce que Dieu va le faire maintenant? Il a sa grande nation, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est une question que je ne m'étais jamais posée avant de suivre ce cours. Il y a un tas de choses que j'ai découvertes dans ce cours et que ma femme et moi nous avons voulu l'enseigner, par conséquence, un tas de choses qu'on a découvertes qu'on ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pensé à la question. On n'avait pas pensé à la question. Entre autres, pourquoi est-ce que les Israélites se sont multipliés en Égypte et pas en Canaan? Vous ne vous rappelez peut-être pas. Ils étaient vulnérables à une attaque, vulnérables à l'assimilation en Égypte, ni à l'un ni l'autre. Voilà, on peut voir comme ça un tas de questions comme ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire avec Israël du temps de David et de Salomon pour accomplir son but? On va voir d'abord les débuts du règne de Salomon. Il a été choisi comme successeur à David, mais après quelques déboires. D'abord c'est Absalom qui s'est révolté contre David, et qui voulait, et on a proclamé à Jérusalem, Absalom règne à Hébron. Il a commencé là où David, son père, a commencé. Il y avait une révolte et David a dû fuir. Mais au début de un roi, donc nous sommes dans un roi, n'est-ce pas? Un roi, on a Adonijah, qui était peut-être, probablement le fils aîné qui a succédé à Absalom, c'était l'aîné. Après lui, il y avait un autre, mais qu'on ne mentionne plus le nom, donc il est peut-être décédé. Amnon, qui a été tué par Absalom, était aussi plus âgé. Mais le prochain, c'est Adonijah, pas Salomon. Et donc Adonijah, il se prend assez d'orgueil pour dire « Je serai roi », même si David, son père, a dit « C'est Salomon, c'est moi qui serai roi, emporté par l'orgueil ». Et il organise ça à un lieu, En-Rogel, je crois que ça s'appelle, un lieu pas trop loin de Jérusalem. On peut entendre même des cris. Il invite certaines personnes, hautes personnalités, mais pas tout le monde. Il invite Joab, le chef des armées. Il invite Abiathar, l'un des deux sacrificateurs, et pas l'autre. Donc, il fait une distinction. Et donc, pourquoi? Parce que bon, il a acquis certaines personnes de son côté, mais pas tout le monde. Il invite pas Nathan, le prophète par exemple. Et Nathan, quand il entend qu'il y a une grande fête dans ce lieu, j'oublie le nom, vous avez le nom là? En-Rogel. C'est ça, En-Rogel. Nathan entend parler de ça et va voir, pas le roi directement, mais Bathsheba, Bathsheba, si tu ne fais rien, nous sommes tous morts. Hein, Salomon et toi, vous allez mourir. Parce que quand un roi accède au trône, il tue ce rival. Et donc, ils s'introduisent chez David et ils le convainc de proclamer Salomon roi. Et on entend des trompettes et des proclamations. Et en fait, un messager vient à En-Rogel pour dire à Adonijah, attention, notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. C'est le numéro 2 dans votre support. Et là, tout le monde s'est dispersé. Ah, tu étais où quand il y a eu la grande fête pour Adonijah? Ah non, je n'étais pas là. C'est un danger politique. Et donc, Salomon devient le roi légitime, annoncé par David. Et sous-entendu, parce que Dieu lui a paru deux fois, sous-entendu, choisi par Dieu. On n'a pas ici une onction d'un prophète comme Samuel, mais Nathan, c'est un prophète quand même. Et grand B, la question d'examen, d'admission au rôle de roi. Ça, c'est très particulier. Hein. Que Salomon qui a reçu ce genre de choses. Dans Salomon va offrir des offrandes à Dieu. Le texte précise un petit peu avec une petite connotation que Salomon, c'était très bon roi au début, mais bon, il n'avait pas compris qu'il fallait offrir les offrandes uniquement au tabernacle. Il les offrait au vrai Dieu, mais au haut lieu. Il y avait deux hauts lieux principaux, donc Gabaon. Et là, c'est intéressant. Ils n'avaient pas le droit, normalement, d'offrir des offrandes à Dieu dans les hauts lieux, seulement au tabernacle. Il n'y a pas encore de temple. Et pourtant, Dieu lui apparaît en songe à Gabaon. Remarquez que Dieu n'est pas aussi sévère que nous, parfois. On n'est pas aussi strict, il n'est pas aussi carré. Donc, il y a une certaine mesure de... Pas d'accoutumance, mais comment dire de tolérance, j'entends un peu, c'est pas grave. Que veux-tu que je te donne? Ah, question intéressante. Que veux-tu que je te donne? Qu'est-ce qu'on répondrait, nous? Dans le Nouveau Testament, deux disciples, Jacques et Jean, ont demandé à Jésus, par leur mère interposée, qu'on soit assis à ta droite, à ta gauche. Des positions d'honneur. Bartimée, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Qu'est-ce qu'on répondrait? Ça, c'est le sujet intéressant pour un sermon, pour un message. Quand Dieu lui dit, que veux-tu? Ah, Seigneur, répond, c'est un grand peuple, innombrable, je suis que jeune, j'ai besoin de sagesse, d'intelligence pour régner à la place de mon père David. C'est le verset, chapitre 3, verset 9. On va poser la question plus tard. Est-ce qu'il a demandé la bonne chose? Mais le texte dit, et cela a plu à l'Éternel. 3, verset 10. Cela a plu à l'Éternel. Puisque tu sais ce que tu demandes, je te donne aussi une longue vie, des richesses, etc. Je te donne un cœur sage et intelligent. Il a tout maintenant, Salomon. Il a la position de roi, on veut dire petit empereur sur un petit empire. Il est énormément riche. Bon, il a toutes les femmes qu'il veut, ça c'est une autre question. Moi j'ai une seule femme, c'est tout ce que je veux. Hein. Mais aussi, j'allais dire, il a une religion révélée. Il a la vraie religion, hein. Il croit au seul vrai Dieu, c'est la vraie religion. Il a une spiritualité héritée de son père comme modèle. Et maintenant, il est extrêmement intelligent. Est-ce qu'il était avant? Peut-être, mais là, maintenant, il a tout pour réussir. Mais c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Et là, grand C, la promesse conditionnelle de Dieu, on l'a déjà vu ça la dernière fois, si tu marches dans mes voies. Il le répète, chapitre 3, 14, si tu marches dans mes voies en observant mes lois, mes commandements, ça rappelle ce que Dieu a dit à David dans 2 Samuel 7. Hein? Ton descendant, s'il marche. Et au chapitre 9 de 1 roi aussi, on va voir ça plus tard, et il dit la même chose. Si. Les conditions d'application. Numéro 2, les accomplissements de Salomon en tant que roi, c'est énorme. C'est énorme. Caractéristique de son règne, chapitre 3 et 4. Remarquez que dans certains de ces chapitres, si vous avez la Bible du Semeur, et si vous avez aussi la Colombe, les versets seront différents parce qu'ils suivent, pas la Vulgate, mais la Septante, plutôt que les textes hébraïques. La Septante, c'est en grec. Et les chapitres, vous savez, les chapitres et versets sont pas forcément inspirés. Mais c'est comme ça qu'on divise la Bible. Mais donc, certains des versets sont différents. En gros, la nation s'épanouit, devient puissante, devient vraiment très grande, très grande. Richesse et honneur, dans 1 roi 10, 14 à 21, nous n'avons pas y tourné, mais on trouve qu'il avait énormément d'or dans la nation, de l'ivoire, un trône d'ivoire recouvert d'or avec deux lions d'un côté et de l'autre, et des lions plus petits sur les marches, il y en a 12 de chaque côté, je crois, fait d'ivoire, mais recouvert d'or. C'est ça qu'on voit, donc richesse et honneur, et l'argent, le métal argent n'était pas considéré dans le royaume. 1 roi 4, 22, Salomon consommait à lui seul 30 mesures de farine tous les jours, 30 bœufs, 100 brebis, sans compter les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles. C'était à lui seul. J'ai eu des amis aux États-Unis qui ont dit, mais il faut prendre la Bible littéralement au pied de la lettre. Il faut pas. Là, on peut pas. Salomon consommait 30 bœufs tous les jours. Bon, ça voulait dire son entourage, son administration. Numéro 2, c'était un règne théocratique. Pourquoi théocratique? Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Chapitre 3, verset 28, c'est l'histoire des deux prostituées. Et l'une dit, je me suis réveillée et mon fils était mort, j'ai couché sur lui et j'ai vu, c'est pas mon fils, c'est le fils de l'autre. Qu'il a substitué. Elle a couché sur son fils. Salomon dit, apportez une épée, tranchez-moi ce bébé, donnez une part à l'une et une part à l'autre. Et la vraie mère dit, ah non, non, ne tuez pas. Je veux bien l'abandonner, qu'elle élève mon fils, ne la tuez pas. Et l'autre dit, si, on va la tuer, tu en prends la moitié et moi aussi. Et Salomon dit, c'est elle, la mère. Après avoir entendu l'histoire, c'est évident comment le faire, mais avant. Avant, est-ce que c'est évident? Et le dernier verset, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Ça ne veut pas dire qu'on avait peur de lui, mais ça veut dire le respect. Hein. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Donc, une indication d'un règne théocratique, c'est-à-dire la théocratie par le biais du cœur d'un homme. Par le cœur, je ne veux pas dire les émotions, je veux dire le fort intérieur de l'homme. Vous savez que dans le Nouveau Testament, les occurrences du mot cœur, je n'ai pas étudié pour l'Ancien, mais pour le Nouveau, les occurrences du mot cœur sont à 50% l'intelligence, l'esprit ou l'intelligence, pas les émotions. Donc ça veut dire l'homme ou la femme, l'intérieur, c'est décision, intelligence, émotion et volonté. Et tout ça. Donc le cœur est tellement important. C'est un règne théocratique. On va lire aussi 4:31. Il était plus sage qu'aucun homme, puisqu'étant les Rachites, le fameux sage, hein, puisqu'aimant Calcol et Dardan, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. À retenir. Parmi toutes les nations. Et le verset 34 du même chapitre 4, il venait des gens de tous les peuples, à retenir, hein, il venait des gens de tous les peuples pour entendre, non pas encore la parole de Dieu, mais la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Tous ceux qui entendaient parler venaient soit en personne, soit envoyaient leurs professeurs d'université, etc. Numéro 3, dans les arts théocentriques, c'était un musicien, un poète, un écrivain, et il a écrit un millier de chants Dans les psaumes, on a seulement deux psaumes de Salomon, je crois, hein, seulement deux. Ou c'est deux de Moïse et plusieurs d'autres de Salomon, je suis pas sûr là. On n'a pas les 1005 cantiques qu'il a écrits et 3000 proverbes. Vous avez compté les proverbes de Salomon dans le livre des proverbes? C'est pas 3000, hein. Et donc, c'est les arts, là, l'art de littérature et de musique, les arts théocentriques, théocentriques. Alors, j'ai marqué 1 roi 4, 32, mais dans la colombe et la Bible du Sommeur, c'est 5, 12 à cause de ce décalage. Numéro 4, développement des connaissances théocentriques. Par les armes et les connaissances, on a l'impression que l'université de Jérusalem était de grande renommée, même si on ne le mentionne pas, mais c'est écrit que Salomon parlait, verset 33, de la botanique, de la zoologie, de l'ornithologie, de l'herpétologie et de l'ichtyologie. Alors l'ichtyologie, c'est les poissons. Hein. Vous connaissez pas le mot ictus? Ah, ictus, c'est les cinq lettres. Jésus, fils de Dieu, Seigneur. Comment? C'est les reptiles. C'est tous les reptiles ou alors seulement les serpents? 4:33. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Il a probablement donné des conférences. Peut-être qu'il a fondé une université. Vous voyez, c'est une grande... Et il y a une université, c'est pas le seul, mais l'université Shalom à Bunia dans la République démocratique du Congo, en Ituri, à l'est, beaucoup de guerres. C'est une université chrétienne, avec plusieurs centaines d'étudiants en médecine, en toutes sortes de choses. Et leur devise, c'est « toute vérité est divine ». Une de leurs devises. « Toute vérité est divine ». C'est-à-dire, on étudie la science. Si c'est une vraie science, ça vient de Dieu. On pense les pensées après lui, disait Johannes Kepler, je crois. Numéro 5, la population. 1 roi 80, pareil, la population est pareille au sable qui est sur le bord de la mer. C'est l'accomplissement de la prophétie, la prédiction de Dieu, dans Genèse 22, 17 à Abraham, tes descendants seront semblables au sable qui est sur le bord de la mer, une fois, une autre fois aux poussières, une autre fois aux étoiles. Numéro 6, la prospérité, le manger, boire, se réjouir. C'était une belle vie. Judas Israël était très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer, et mangeait, buvait, se réjouissait. Il y avait paix et sécurité. Verset 25. Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, depuis Dunkerque jusqu'à Marseille, habitaient en sécurité. Pas de plan vigipirate. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. Une phrase consacrée qui veut dire tout allait bien. Chacun dans son pavillon avec un garage du temps de Salomon. Donc c'était vraiment la belle vie. Quelques exemples de la grandeur du règne de Salomon. Les archéologues ont trouvé des bouts de bois qui sont avérés être des poteaux pour les 40 000 stalles. Verset 26. 40 000 stalles pour les chevaux. Ils les ont trouvés, pas 40 000 peut-être, mais ils les ont trouvés sous le sable. Et à Etzion Geber, donc qui est Elot sur le golfe d'Aqaba, on a trouvé une fonderie avec des hauts fourneaux dans une vallée. Qu'est-ce qu'on appelle ce genre de vallée où c'est comme une canyon, mais où il y a une faille tectonique et c'est plus bas. Et donc, comme un canyon où le vent souffle très fort. Comment ? D'accord. Voilà. Et le vent souffle très fort et c'est là qu'on trouve les fonderies et hauts fourneaux avec température élevée pour purifier le métal et tout ça. Alors, voilà. La gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. C'est la page combien de votre support ? D'accord. Alors, j'ai des notations des pages de votre support et ils sont tous faux. Donc, grand B, Salomon va construire la maison de l'Éternel. C'est prédit, c'est pas David, mais c'est une merveille mondiale. Et dans 1 roi 8, 11, on a cette phrase que la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. Ce temple était extrêmement important, plus important que le bâtiment d'église que vous avez ici, consacré à vos cultes, etc. On va se poser la question, pourquoi était-il si important? et je vais me répéter, c'est volontaire, dans mes notes que je lis ou quelles références, il y a des répétitions. Pourquoi c'était important? C'était la présence de Dieu. Dieu était là. Je me rappelle que Ralph Chalice a écrit dans un de ses livres, ou alors je l'ai entendu plusieurs fois, Ralph, une église, c'est le corps de Christ, si Jésus n'est pas là, c'est pas une église. Et il y a de temps à autre en Europe ou en Amérique du Nord, il y a des églises où il n'y a pratiquement pas de chrétiens convertis, nés de nouveau. Et Jésus n'est pas là. Ça peut arriver, des églises, comment dire, pas hérétiques, ou le mot m'échappe, mais ils ont abandonné le Seigneur. J'ai entendu parler d'une église aux États-Unis où on fait une danse autour d'une représentation de la déesse sagesse. Vous vous rendez compte? On appelle ça une église chrétienne. Dieu est là. Dans Deutéronome 12, quelques versets, il parle le lieu que choisira l'Éternel pour y placer son nom. Voilà, dans ces versets-là. Et dans ces versets 6, 7, 12, 14, vous avez la phrase c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là que vous apporterez vos offrandes. C'est là que vous prierez. C'est là que vous viendrez en pèlerinage. Dieu était là, dans le temple à Jérusalem, ou dans le tabernacle avant, d'une manière qui n'était pas ailleurs. Dans sa prière de dédicace, Salomon a dit « Comment est-ce que je construis une maison qui pourrait te contenir, toi que l'univers même ne peut pas contenir ?» Évidemment. Mais il est là d'une manière particulière, qui n'est pas ailleurs. Conséquence, le temple est le centre de la vie nationale, religieuse et spirituelle. C'est un lieu de sacrifice pour le péché, pour la culpabilité. Quand on avait péché, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait aller offrir un sacrifice. Avec son autel, c'est le seul endroit agréé par Dieu. Alors, Salomon a offert un sacrifice ailleurs, Samuel aussi d'ailleurs. Mais dans le texte, c'est le seul lieu agréé par Dieu pour les sacrifices. Et Dieu avait ordonné que l'on offre des sacrifices pour le pardon. L'autel au temple, c'est là où on se débarrasse de sa culpabilité. Si vous avez péché, vous vous sentez terriblement coupable, vous voulez en débarrasser, qu'est-ce que vous faites? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, d'accord? Mais si on vous disait il faut aller à Lyon et faire telle ou telle chose, pas sur un sacrifice d'animaux, hein, vous oseriez le faire, hein, vous le feriez. Vous iriez très loin, débarrasser de sa culpabilité. C'est ça la fonction de l'autel, la fonction du temple. Lévitique 5, 21 et 25. Lorsque quelqu'un péchera, il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Donc un lieu de sacrifice pour le péché. C'est aussi un culte centralisé. David a probablement écrit ses psaumes sur les collines autour de Bethléem. On peut adorer Dieu n'importe où. On trouve des chrétiens, des nouveaux, hein, pas des faux semblants, mais qui disent je peux adorer Dieu chez moi aussi, j'ai pas besoin d'aller au culte. Bon, ils ont raison quelque part, mais ils ont pas raison. N'abandonnez pas l'assemblée, votre assemblée ensemble. Mais en Israël, le culte était centralisé au temple. Déjà avec le tabernacle, c'est le cas. Mais avec le temple, l'idée du lieu est accentuée encore plus. Parce que le tabernacle, il pouvait être ici ou là, mais le temple est à Jérusalem. La ville où j'ai mis mon nom. Et là, il y a des pèlerinages dans la loi de Moïse, dans la loi donnée à Moïse. Trois fois par an, les hommes doivent y aller. Les femmes peuvent y aller aussi. Hein. Mais trois fois par an, pour des fêtes d'adoration, à Pâques, à la Pentecôte, et fête des tabernacles, qui est devenue Yom Kippour. Donc, il y avait sept fêtes en tout, mais regroupées sur trois périodes de l'année. Pâques, Pentecôte et tabernacle. Petit C, c'est un lieu privilégié pour la prière. Vous allez dire l'adoration. Oui, l'adoration par le culte, d'accord, et par le chant, par les psaumes, mais aussi pour la prière, simplement pour des requêtes, des prières de repentance, des requêtes envers le Seigneur. Quand Anne se disait « Je veux un enfant, je veux un fils », au tabernacle, elle est allée prier. Et c'était Samuel. Jésus a parlé du temple comme une maison de prière. Il a cité Ésaïe et Jérémie pour ça. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les hommes venaient à ce lieu-là pour prier, pour rencontrer Dieu, pour connaître Dieu. Pour rencontrer Dieu ces jours-là, il fallait monter à Jérusalem. Quand j'étais jeune, j'allais à des camps auprès de Lys, dans la Haute-Savoie, et on chantait « Je veux monter sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu ». Vous connaissez ce petit chant, hein ?« Je veux monter sur la montagne, rencontre Dieu ». Ah oui. Dans le bus, dans le train, on chantait ça. Ouais. Mais non, c'est pas vrai pour nous. C'est pas vrai pour nous. J'ai enseigné ce cours plusieurs fois et j'ai eu l'occasion de dire on n'avait pas besoin d'aller en Terre Sainte, à Israël actuellement, à marcher où Jésus a marché pour vraiment connaître le Seigneur. Et j'avais un élève dans le cours, il était allemand d'ailleurs, et il n'était pas d'accord avec moi. Il a dit non, je suis allé et ça m'a fait quelque chose de bien. Oui, mais on n'a pas besoin. Pas besoin de faire des pèlerinages. Mais eux devaient. Il fallait y aller. C'est étrange pour nous, n'est-ce pas? Peut-être c'est pas étrange, mais c'est peut-être pas étrange pour des catholiques. Il y a certains protestants aussi qui font des pèlerinages. Mais pour nous évangéliques, c'est peut-être un petit peu étrange. L'importance du temple pour Israël, c'était la présence de Dieu. Là, je me répète, hein, mais je l'ai laissé la répétition. D'abord le tabernacle, puis le temple. Tout à fait, oui. Les colonies, les camps pour les jeunes, et puis les jours de... Ah oui, d'accord. On voulait y aller cette année, l'année dernière, on n'a pas pu. Oui. Ou le jour de l'Ascension, le Pentecôte, il y a les rassemblements de chrétiens. Oui, tout à fait, les congrès. Tout à fait. Mais...
C'est pas un pèlerinage en soi, mais...
Exact. Mais quelqu'un qui est allaité et qui ne peut pas se déplacer ne manque rien et peut communier avec le Seigneur. Mais à l'époque, il fallait aller à Jérusalem. Quand ils ont construit le tabernacle, écoutez ce qui est arrivé. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et là, de nouveau, quand ils ont tout fini et que Salomon a fini de prier, on a la même chose. 1 Rois 8:11. La gloire de l'Éternel remplissait la maison, et c'est écrit, les prêtres ne pouvaient pas y rester. Donc d'une façon particulière, Dieu est là, d'une manière qui n'est pas ailleurs, plus que sa présence par une théocratie, par l'intermédiaire d'un homme, c'est-à-dire David est le roi sur son trône, Salomon est le roi sur son trône, Dieu est là en quelque sorte parce qu'il dirige tant que Salomon est obéissant, mais dans le lieu très saint, entre les chérubins, au-dessus de l'Arche de l'Alliance, Dieu est là de façon plus forte qu'au palais royal, mais moins fort que l'incarnation de Dieu le Fils, qui est devenu un homme. Donc, est-ce qu'il y a des mesures de la présence de Dieu? Peut-être pas, mais il y a des mesures, des grades, on peut dire, de notre appréciation et de notre expérience de la présence de Dieu. Quelle différence y a-t-il de nos jours? Bien, le temple est de loin plus important que notre bâtiment d'église. L'église, c'est les gens. J'ai entendu ma femme parler au téléphone l'autre jour avec quelqu'un, elle dit ben, « Je te rencontrerai au local de l'Épège ». Et je me suis dit « Ah, j'ai enfin réussi à former ma femme à ne pas dire à l'église ». C'était local, elle parlait local. C'était pas l'église qui se rassemblait, c'était pour. Et donc, on dit, je vais aller à l'église. Parfois, on veut dire au peuple. Mais donc, où est-ce que le club d'enfants va se tenir? Ben, à l'église. Non, au local.
Est-ce que l'ambiguïté existe aussi en anglais?
Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être dans tout. C'est pas trop grave. Mais là. Oui, mais là, au temple.
En français, on a cette minuscule.
Oui, en français courant. Mais en français biblique, peut-être pas.
Ce que je veux dire, c'est que cette distinction.
Oui, l'ambiguïté, oui, tout à fait, oui. Exact. Non, je ne veux, pas pousser le bouchon trop loin. Ah bon, d'accord. Petit A, Jésus abolit l'idée d'un lieu particulier pour adorer Dieu dans Jean 4. Quand il parle avec la femme samaritaine, et puis il met les points sur les i sur certaines choses, et non pas qu'elle veut changer le sujet, certaines personnes disent qu'elle change le sujet en parlant des questions religieuses, je crois qu'elle s'intéressait vraiment. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, et nous, sur cette montagne-là, Garizim, on a les ruines du temple samaritain que Jean Hyrcan a détruit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient, est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Intéressant ça. Jésus parlait dans la période de l'Ancienne Alliance, où il y avait un temple à Jérusalem. Et pourtant, il dit, l'heure vient. Puis il ajoute, elle est déjà venue. Pour nous, nous avons l'habitude de dire, Jésus est là, là où deux ou trois sont assemblés, en son nom. Tout à fait juste. Donc, on a du mal à se mettre dans l'Ancien Testament de nouveau sur cette question-là. Et d'ailleurs, ah oui, aussi petit b, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, etc. Numéro 5, la prière de dédicace du temple. Très intéressant, on pourrait passer une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce seul texte. 1 Roi 8, on va accentuer certaines choses. Quand il a prié, il a dédicacé ce lieu, ce temple, cette maison, à l'Éternel. Et puis il a commencé à faire des requêtes. Seigneur, quand ton peuple expérimente, par exemple, la famine, pourquoi? Parce qu'ils auront péché contre toi. Et que tu accomplis ce que tu as dit dans Deutéronome 28. Il n'a pas dit ça, mais c'est ça. Hein. Eh bien, quand ils viennent prier au temple, écoute-les, Seigneur. Exauce leur prière s'ils reviennent de leur péché. S'ils venaient et disaient, Seigneur, nous avons un problème. Versets 35 et 36, d'ailleurs. Ben non. Attends, c'est quel? 8, 35 et 36, ça. Quand le ciel sera fermé, il n'y aura pas de pluie. On pense à Élie, n'est-ce pas? 3 ans et demi. Ouais. S'ils se détournent dans leur péché, exauce-les des cieux. Et les versets 46, 48, c'est très parlant. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand même, Salomon était réaliste. Est-ce qu'il s'appliquait ça à lui aussi? Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Si je ne me trompe pas, Moïse avait déjà parlé de ça dans Deutéronome. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où seront captifs, verset 48, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison. On pourrait avoir un diapo avec des cercles concentriques. Ça s'accentue. Après, on pourrait même dire vers le lieu très saint, la présence de Dieu. Eh bien, exauce des cieux leurs prières de supplication. Il y a même question, verset 41, de l'étranger. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra prier, exauce-le des cieux. On reviendra là-dessus. Pourquoi? Eh bien, vous avez ce texte-là, verset 43, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Ça nous rappelle Genèse 12, 3, que tous les peuples de la terre soient bénis en Abraham. Et c'est donc là la plus grande chose, la plus importante du temps de Salomon, c'est le temple, là où on rencontre Dieu. On ne peut pas trop l'accentuer. Numéro 3, le règne de Salomon, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Je ne sais pas si c'est un renouvellement de la promesse, mais c'est une application peut-être. Genèse 12, Abraham, je ferai de toi une grande nation, et tu seras en bénédiction à toutes les familles de la terre. 2 Samuel 7, 16, ton trône sera pour toujours affermi. Oui.
C'est bien, c'est deux choses que tu mets en parallèle, c'est pas un ESP.
Non, c'est ET. C'est ET, ET, oui. C'est pas EST. Oui. On pourrait dire EST. On pourrait, mais ce n'est pas grave. Et donc, 2 Samuel 7,16, c'est « David, ton trône sera pour toujours affermi, pour toujours éternel. » Et 1 Roi 9, versets 4 à 9, on va le lire dans un instant, on va lire des extraits. Est-ce que, de nouveau, la promesse faite à David, tu auras toujours quelqu'un sur ton trône, est conditionnelle ou inconditionnelle? J'ai dit que je crois que c'est inconditionnel. Mais dans la vie de Salomon, c'est conditionnel. Dans la vie de son fils Roboam, et de son fils à lui, son arrière-petit-fils, l'application, la bénédiction est conditionnelle à chaque génération. Donc l'alliance, dans vos notes, vous avez l'alliance avec Dieu. Dans mes notes, j'ai barré avec, j'ai mis deux. C'est l'alliance de Dieu. Parce qu'on pourrait comprendre l'alliance avec Dieu comme étant bilatérale. En fait, c'est Dieu qui s'engage et David ne s'est jamais engagé parce que Dieu a fait une promesse qui va s'accomplir, quoi qu'il arrive. Ça me rappelle le peuple rebelle dans le désert. Dieu ne peut pas nous faire entrer. Eh bien, je vous ferai tomber vos cadavres dans le désert, vous allez errer pendant 38 ans, mais de toute façon, j'accomplirai mon projet. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc, l'alliance de Dieu est inconditionnelle, mais les conditions d'application à chaque génération ne le sont pas. Si tu marches selon mes lois, j'accomplirai, remarquez, à ton égard, la promesse que j'ai faite à David. Ne dis pas, j'accomplirai la promesse dans l'avenir. Non, mais à ton égard, pour toi. Conséquence de l'obéissance ou non à ces conditions. Si tu marches, ça c'est 1 Roi 9, 4 et 5, en ma présence comme a marché David, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Là, on pourrait dire c'est un petit peu ambigu, ça part de l'avenir. Mais il avait déjà promis à David, sans condition, d'établir son trône. Là, c'est le trône de Salomon. J'avoue que j'arrive pas à mettre tout ça ensemble, mais voilà. L'application à chaque génération est conditionnelle. Petit b, mais si tu te détournes de moi, remarquez, c'est pas tu, hein, c'est vous. On a l'impression qu'on revient aux conditions de l'alliance faite avec Israël du temps à Sinaï. Quand c'est vous comme ça, c'est pas seulement Salomon, c'est Salomon et le peuple. Si vous détournez, eh bien les conditions de l'alliance faite avec Sinaï vont s'appliquer. Hein? La promesse qu'il y aura quelqu'un pour toujours et éternité sur le trône de David, elle s'accomplira. Mais pendant la période de Salomon ou de Roboam, mais si vous détournez de moi, vous, vos fils, vous servez d'autres dieux, c'est ce que Salomon a fait. On va voir ça la prochaine fois en février. Qu'est-ce qu'il dit? J'exterminerai Israël. Il ne dit pas, je tuerai tout le monde. J'ai dit, j'exterminerai Israël de ce pays que je vous ai donné. Et donc, il s'agit de l'exil et de la déportation. Numéro 3, Salomon a-t-il eu tort de demander de la sagesse au lieu de demander d'être un homme juste? Il a eu tort? Non. Très souvent dans ce cours, quand je mets oui ou non, il n'y a pas de réponse claire oui ou non. Très souvent, pas toujours peut-être. Mais on va examiner cette question. N'aurait-il pas fait mieux de demander un cœur, comme le cœur de son père David, un cœur juste et fidèle? D'ailleurs, il l'a demandé une fois. On va y venir à ce verset dans un instant. On va y venir. Un cœur selon le cœur de Dieu, comme son père David. Remarquez que dans 1 Roi 3, 9, Salomon demande un cœur intelligent. Verset 9, et au verset 10, c'est écrit, et cette demande a plu à l'Éternel. Donc, on va dire, clairement, c'est non, il n'avait pas tort. Mais, quand on examine la chose, est-ce que Dieu peut, quand on commence une phrase comme ça, est-ce que Dieu peut faire quelque chose d'absurde? Non, il ne peut pas faire quelque chose d'absurde. Mais est-ce que Dieu peut nous donner un cœur fidèle? Certains chrétiens qui sont, j'ai presque dit un extrême, peut-être qu'ils ont raison, hein, mais qui sont d'un côté de certaines questions, on va dire, oui, Dieu, nous ne pouvons rien faire sans que Dieu agisse. Ça c'est vrai, mais vous voyez un petit peu le problème? Est-ce que Dieu peut me donner... Mon père répondait aux gens, vous savez, les chrétiens disent, « Ah, mais que Dieu vous bénisse, monsieur. » Et parfois, quand il sentait qu'il avait la permission de le dire, il dit, « Il le fera si je lui permets. Il me bénira. Mais je peux enfreindre sa bénédiction. » Donc, la question de la souveraineté de Dieu, la responsabilité de l'homme, est-ce que Salomon aurait pu... Je pense que le Seigneur nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin. Il y a un verset dans Pierre qui parle comme ça, hein, l'épître de Pierre. Mais nous devons répondre. Nous devons répondre par la foi, croire ce que Dieu dit, et par l'obéissance. La foi est nécessaire pour le salut, et l'obéissance est nécessaire pour lui faire honneur. Certains chrétiens disent que l'obéissance est nécessaire pour le salut. Je ne crois pas. Ça, c'est un autre évangile, un autre sens. Illustration de notre responsabilité. Mon père m'a dit qu'en Afrique, il a été missionnaire en Afrique pendant 5 ans, et quelqu'un d'autre a dit, oui, en Afrique du Nord, c'est la même chose. J'ai un ami berbère qui m'a parlé de ça. Surtout à l'époque, les gosses n'avaient pas de jouets, pas beaucoup de jouets, pas de jouets du tout. Et les gosses qui arrivaient à piéger les oiseaux, un moineau, ils attrapaient un petit moineau, ils attachaient une ficelle à la patte et le faisaient voler, comme un cerf-volant, s'amusaient, jusqu'à épuisement. L'oiseau ne survivait pas. Hein. 5 ou 6 heures comme ça, il est fini. Hein. L'oiseau essaie de s'échapper et bon, il est sur une ficelle. Mais c'est le garçon, dans cette illustration, je crois que ce n'est pas une histoire vécue, mais on ne sait jamais, l'un a dit à l'autre, « Et si on faisait autre chose ?»« Ah, c'est quoi que tu veux faire ?»« Tu connais le vieillard du village ?»« Ah oui, il ne marche pas beaucoup, mais bon, il est connu comme un homme sage. »« On va le voir, on va lui poser une colle. » Ils vont avec l'oiseau, ils s'approchent. « Hey, monsieur le vieillard !»« Oui, les garçons, ils ne voient pas très bien. » »« Comme moi, j'ai une cataracte. »« Qu'est-ce que vous avez là ?»« J'ai un oiseau. » Ici. « Ah oui ?»« Monsieur le vieillard, il est mort ou il est vivant, mon oiseau ?» Tout de suite, l'homme sage sait que c'est un piège. Parce que s'il dit « il est mort », le garçon fera « eh ben non !» Et puis, il s'échappera. S'il dit « il est vivant », regardez, hein. Ben non, il est mort. Donc, et le vieillard, il sait ce qu'il est capable de faire. Alors, il est mort, il est vivant, monsieur le vieillard. Il regarde un moment, il dit, mon garçon, il est entre tes mains. Il est entre tes mains. Et c'est un petit peu vrai pour nous aussi. Et Salomon, c'est entre nos mains. Jésus dit, Jean 6, 37, ceux que le Père me donne viennent à moi. Et je crois qu'il nous est impossible de venir à Dieu sans que le Père nous le donne. Mais nous avons la responsabilité de venir. Et je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. C'est le même verset, Jean 6, 37. J'avais un autre verset quelque part, mais j'y arriverai, je crois. On vient revenir peut-être sur cette question dans un instant. Ah non! 1 Roi 8, 58, Salomon a prié dans sa prière de dédicace qu'il incline nos cœurs vers lui. Il a dit, nous tous Israélites, que le Seigneur incline nos cœurs vers lui. C'est une belle prière. Mais je ne suis pas sûr que le Seigneur réponde pour nous forcer d'incliner nos cœurs vers lui. C'est à nous de répondre aussi. Donc c'est un petit peu les deux, n'est-ce pas? Ah, Philippiens 4, oui. Il nous donne le vouloir et le faire. Ouais. Mais une fois qu'il nous a donné le vouloir, ben, il faut vouloir. Ouais. 1 Roi 8, 58, c'est dans la prière de Salomon qu'il incline nos cœurs vers lui. C'est une belle prière, mais je ne crois pas que le Seigneur dise ben, « Je vais incliner leur cœur pour qu'ils ne réussissent pas à m'échapper. » Moi, ça m'étonne de voir que parmi. Voilà. Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Mais on peut accentuer un côté de cette chose et le pousser. J'avais un professeur à un institut biblique qui enseignait beaucoup de choses, mais quand on arrivait à une certaine tension, un paradoxe, il disait, dans notre compréhension de la Bible et dans la théologie, il est plus facile d'aller à un extrême logique. Donc ceux qui disent Dieu choisit qui va être sauvé et les hommes n'ont rien à faire là-dedans. On l'a dit à William Carey, ne pas aller en missionnaire en Inde que lorsque Dieu les sauverait s'ils voulaient le faire. Et l'autre extrême, ceux qui croient qu'ils perdent leur salut quand ils ont péché, qu'ils doivent être convertis de nouveau, on peut être converti des centaines de fois. Et certaines logiques aux deux extrêmes. Mais notre professeur disait, il est plus facile d'aller à un extrême logique que de rester au centre de la tension biblique. Il y a une tension parfois entre deux choses. Mais il faut rester sous tension. Il faut affirmer. Oui, et Augustin, qu'on appelle Saint Augustin, a dit, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Non, mais il voulait dire, vous voudrez, si vous aimez Dieu parfaitement, vous voudrez faire sa volonté. Oui, ouais, c'est une bonne remarque. Bénédiction de la théocratie, pourquoi une grande nation? Avec les données que nous avons maintenant, essayons de répondre à cette question. Bénéfice pour Israël, quelles sont les retombées? Matériel, c'est une grande nation, ils sont prospères, chacun se sent figuier. Ils ont la paix, la sécurité, ils ont un bon gouvernement. Même un mauvais gouvernement est meilleur qu'aucun gouvernement du tout. Mais il y a aussi les bénédictions spirituelles, la relation avec Dieu, la rédemption. Donc dans cette religion révélée, les sacrifices promettent le pardon. Ils n'accordent pas le pardon, mais le promettent. Nous savons que c'est seulement la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection par laquelle nous sommes pardonnés. Y a-t-il des bénéfices pour les autres nations? Je crois qu'on peut tourner la page. Hein. Quels sont les bénéfices pour les autres? Genèse 12, 3 dit, une grande nation, c'est bénéficier à toutes les familles de la terre. Eh bien, d'abord, on a déjà lu quelques versets, les rois sont venus admirer la sagesse de Salomon. 1 roi 4, 34, on a déjà lu, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre. Mais ils y trouveraient aussi, s'ils cherchaient assez, des bénédictions spirituelles. Quand Salomon était fidèle au Seigneur, l'effet immédiat de l'accession de Salomon au trône de son père David et de l'évidence, l'épreuve de sa grande sagesse, Hiram, roi de Tyr, les Tyriens étaient des adorateurs de Baal, hein, rappelez Jézabel. Hiram, roi de Tyr, dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel ». Qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Un roi païen qui loue le seul vrai Dieu à cause de cette grande nation qui a une certaine aura spirituelle. Petit A, bénéfice pour les autres nations. La prière de Salomon, on a déjà lu. On va le lire de nouveau. Si vous avez votre Bible, 1 roi 8, 41 à 43. 1 roi 8, 41 à 43, si votre Bible n'est pas ouverte, au moins écrivez la référence. Je vais lire ce verset en entier, mais cette fois. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, on se rappelle Éphésiens chapitre 2, vous étiez sans Christ et sans espoir dans le monde, privé de droit en Israël, écrit Paul, aux chrétiens d'origine païenne. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, retenons cette phrase, il viendra, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Pourquoi? Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël. Que tous deviennent des Ruth la Moabite. Qui s'est converti à Yahvé. Voilà la vision du roi sage Salomon, et on pourrait dire la vision de Dieu. Que tous les peuples de la terre le respectent, le craignent, et en fait soient pardonnés. Pas chaque individu, parce que nous savons que c'est pas dans le plan de Dieu. Mais voilà, Voilà comment Dieu veut se servir de cette nation. J'ai posé la question à un chrétien à Grenoble, quel est le but de l'Ancien Testament ? Il m'a répondu, justement, pour que le Messie puisse arriver sur terre, il avait besoin de devenir un homme dans une vraie nation. C'est tout à fait vrai. Mais pourquoi ça a pris 1000 ans comme ça, ou 2000 ans ? Le but de l'Ancien Testament, c'est de glorifier Dieu par la nation d'Israël. Par qui de qui viendrait la loi de Dieu ou la confiance en Dieu ou la vraie religion révélée pour les autres nations? Et là, quand l'étranger viendra, c'est une belle vision. La page suivante, c'est la reine de Saba. Oui, tout à fait. Et il a dit, il y a ici plus grand que Salomon.
Non, c'est qu'il a parlé avec Ninive, juste après.
Comment ?
Avec Ninive, dans le passage de Luc.
Ah oui !
Parce que SLF, on les
condamnait,
on ne sait pas si c'est vraiment converti. Alors, entendu, c'est-à-dire, c'est comme ça le parallèle juste après. Eux aussi, ils ont dit, Ninive, SLF, est-ce qu'ils sont repentis ? Donc, on peut supposer par
là. On va les rencontrer.
Et aussi, elle s'est repentie.
Ah oui, par là, oui. Oui, oui. Je comprends, je suis d'accord avec toi.
Oui.
Je suis d'accord avec toi. Le texte ne dit pas, mais on peut le supposer. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Nous autres chrétiens évangéliques, nous avons le chic de lire la Bible en disant est-ce que lui est sauvé, est-ce qu'elle est sauvée, est-ce que nous. Le texte ne dit pas toujours. Pas toujours. Hein, pas toujours. Donc, afin que les autres nations devaient venir. Un roi, 8, 41-43, les versets que j'ai lus, s'ils viennent, ils doivent venir à Jérusalem. Au lieu d'un évangile qui doit sortir vers les nations, Jésus a dit, Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Ça, c'est notre ordre de mission. Mais là, c'est l'inverse. Ils doivent venir pour entendre la loi de Dieu. Ce n'est pas une force centrifuge qui chasse les éléments à l'extérieur, mais c'est une force centripète. Vous connaissez ce mot, centripète aussi ? Centrifuge, centripète. Famille des peuples, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel. Ça, c'est le psaume 96. Famille des peuples, pas seulement les Israélites, venez au temple, prosternez-vous dans les parvis de l'Éternel. Ésaïe 2, ça peut être problématique, c'est plein d'éléments. Je ne vais pas décortiquer Ésaïe 2, mais remarquez l'élément de venir à Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, Ésaïe 2, versets 2 et 3, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, le temple, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Et la phrase suivante, car de Sion, ça veut dire Jérusalem, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel pour les autres nations. Ésaïe, chapitre 2, concerne un temps futur, mais ça aurait pu être applicable au temps de Salomon, David et Salomon. C'est ça que je voulais souligner. Petit c, Genèse 12, 3, toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce que nous avons un exemple dans le Nouveau Testament où des gens d'origine païenne sont venus à Jérusalem, ou plutôt à Bethléem ? Les mages. Enfin oui. L'eunuque de l'Éthiopie est venu à Jérusalem, il a acheté un rouleau d'Ésaïe, ça veut dire qu'il était riche, et puis donc il a rencontré le Seigneur par Philippe. Est-ce qu'il y a au temps de Salomon, on l'a déjà mentionné, et c'est là dans vos notes, numéro 3, l'exemple de la reine de Séba. Je devrais avoir une carte, mais je ne l'ai pas, je crois. Voici donc le schéma des nations qui devaient venir. Ah oui, d'accord. Les nations qui viennent, donc, la reine de Séba, elle est attirée par quoi ? ce qu'il a entendu sur la richesse et la sagesse surtout de Salomon. Et donc elle, chapitre 10, pourquoi est-ce qu'elle est venue à Jérusalem? La renommée de Salomon, et pour l'éprouver par des énigmes, poser des colles, interro. Elle conclut, elle vit toute la sagesse de Salomon, elle dit, c'est donc vrai ce que j'ai appris sur ta position, ta sagesse, tu as plus de sagesse, de prospérité, etc. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël, on va dire c'est la flatterie, oui, mais elle bénit l'Éternel, c'est la flatterie. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Ça fait un mélange de flatterie d'un monarque pour un autre. Mais elle bénit Dieu quand même. Voilà le genre de choses qui auraient pu arriver. D'autres rois ou reines auraient pu venir. Peut-être qu'ils sont venus, on n'a pas dans le texte. Des professeurs d'université, des magistrats, des hommes de loi, de droit, ça aurait pu arriver. Que ces gens-là viennent à Jérusalem, apprennent à l'université hébraïque de Jérusalem, non seulement sur les poissons, ichtyologie, herpétologie, etc., mais vraiment comment suivre le Seigneur. Et nous, est-ce qu'on peut offrir des sacrifices aussi dans notre pays, comme vous faites? Ah ben là, c'est problématique. Donc, ils auraient discuté. Peut-être que le Seigneur aurait donné, par des prophètes, un message. Oui, à Babylone, offrez un sacrifice, ce sera tenu compte comme si c'était à Jérusalem. Là, j'exagère un peu en spéculant, n'est-ce pas? Mais quand on voit Hiram et la reine de Séba venir, Hiram n'est pas venu à Jérusalem, mais la reine de Séba, voilà le genre de choses qui auraient pu arriver pour que et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors quelqu'un va dire, tu veux dire, Jim, que Jésus n'avait pas besoin de venir? Mais bien sûr qu'on avait besoin d'un Messie, d'un sacrifice. Et Dieu le Fils, qui est entièrement Dieu et entièrement homme, est le seul à pouvoir accomplir ça. Hein. Bien sûr, ce serait passé autrement. Mais voilà, on arrive donc de la promesse à la grande nation qui est censée bénir toutes les familles de la terre. La promesse, je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, l'accomplissement. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Le petit début, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Hein? Donc le petit début est venu maintenant quelque chose de grandiose. Je ne crois pas que j'ai tort d'accentuer qu'Israël était une grande nation et qu'il y avait là l'opportunité de bénir spirituellement toutes les nations de la terre. Mais Dieu avait dit qu'il remplirait la terre de sa gloire. Il a maintenant, je crois que c'est dans vos notes. Comment ? Alors, oui, on pourrait mal comprendre, parce que ce serait mal me comprendre que dire que... pardon, tu n'es pas fini ? Oui.
La royauté du Seigneur,
tu la vois
pas,
non. Exact. Ce serait une erreur de penser, et je ne dis pas ceci du tout, que Israël, David et Salomon sont arrivés à un point de perfection où la nation était un modèle parfait pour tout le monde. Où Salomon était un modèle d'homme spirituel. Même au début de ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'était un instrument. Alors, une nation théocratique, oui, parce que Dieu les dirigeait par le cœur, l'intelligence de David, de Salomon. Une nation rédemptrice, seulement comme instrument. Ce n'est pas la nation qui va racheter le péché. Donc, une nation rédemptrice, on pourrait le reformuler. une nation théocratique, une nation qui est un instrument de rédemption. C'est dans ce sens-là que je veux dire rédemptrice. Oui. 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 Mais c'est pas le pays qui va sauver le monde. C'est pas cette nation qui va sauver le monde, c'est Dieu. Mais Dieu a construit, je ne vois pas comment on voit autrement les 1000 ans de développement de cette nation, en pensant, comme a dit un frère, j'enseignais la vie de David et je parlais de David comme un grand roi, et puis, etc., un grand homme. Il dit, mais non, Jim, c'était un petit chef de clan d'une tribu nomade dans le Moyen-Orient. Pas du tout. Non, non. Je vois pas, on a vu 1000 ans de développement ici, hein. Et bon, je pourrais exagérer, mais cette nation est censée être l'instrument de bénédiction du monde entier.
Alors,
non, c'est pas ça que je veux dire. S'il avait que ça, si mon ami à Grenoble avait raison, le but de l'Ancien Testament, c'est d'amener Christ au monde. Pourquoi est-ce qu'un fils de David, ben non, ce ne serait pas un fils de David. Pourquoi est-ce qu'une femme d'Israël, du temps de David et Salomon, ne se retrouverait pas enceinte par le Saint-Esprit et donnerait naissance à l'homme-Dieu, Dieu le Fils, qui devient, peut-être le mot Jésus existerait comme Josué, Joshua, voilà. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'aurait pas, si c'était le seul but, donc je cherche à comprendre, mais je crois, si c'était le seul but d'amener le Messie au monde pour que il souffre pour nos péchés, soit le sacrifice rédempteur, pourquoi est-ce que en l'an 1000 avant Jésus-Christ, le règne de David ou de Salomon, pourquoi est-ce que ça n'est pas passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que le Seigneur, on va voir la prochaine fois, aurait eu cette patience, cette persévérance avec le fils de Roboam, avec Salomon, pécheur, et le fils de Salomon, Roboam, sous lui, Roboam et Jéroboam, ils divisent le pays, et certains rois du sud sont fidèles, et tous les rois du nord sont infidèles, et Dieu permet au royaume du nord de continuer 217 ans, je me trompe sur les chiffres, mais entre 2 et 3 siècles, et le royaume du sud de continuer entre 3 et 4 siècles, avant qu'il les casse, qu'il les envoie en exil, et que 90 ans plus tard, je ne suis pas sûr, ils reviennent, et 400 ans plus tard, le Messie vient. Pourquoi tout ce délai? Alors, on va dire, le Seigneur sait ce qu'il fait, d'accord. Mais je cherche à comprendre. Et je crois que, comme la reine de Saba est venue adorer Dieu, et comme tu as dit, c'est sous-entendu avec la parallèle avec les hommes de Ninive, qui sont repentis, que peut-être la reine de Saba, on la rencontrera sur la nouvelle terre. Est-ce que ce genre de choses n'aurait pas pu se multiplier? Ça n'enlève pas la nécessité absolue que Dieu le Fils meure en tant qu'homme. Même David a fait la prédiction dans le psaume 22 par une crucifixion, quelque chose de semblable. Vous avez deux, ouais. Intervenir, vas-y. Oui. Oui. C'est les deux, hein. Ça, c'est vrai.
Il y a eu le déluge, on dit recommence avec des bons et ça ne remarche pas. On dit, finalement, les chrétiens, on ne peut plus pas, les chrétiens sont en général d'aujourd'hui, il suffit qu'on ait une nation pour laquelle matériellement tout va bien. Oui. Avec Salomon, j'ai envie de dire, c'était l'apogée où tout allait bien.
Oui.
Et malgré ça,
exact. Le cœur de l'homme.
Ça ne suffit pas, c'est le cœur de l'homme. Donc moi, c'est plutôt, je montre tout ce que je peux vous faire, et malgré tout ce que je vous donne, ça ne marche pas.
J'abonde dans ton sens, absolument.
Et dans ce sens,
exact.
Pour eux, quand les grands sont passés, ils sont venus voir la richesse, ils sont venus voir l'abondance. Tout à l'heure, tu parlais plus ou moins de corruption, quand les grands viennent, ils se font des cadeaux, ils en donnent qu'aux grands. Ah, là, c'est quand même l'exemple.
Exact. Oui, 120 talents d'or, c'est énorme.
Ça m'a fait sourire tout à l'heure quand tu parlais de
Tu as dit deux choses. Il y a, par confusion, mais un mélange entre les mobiles humains pour admirer un autre grand de la Terre, etc. La reine admire le roi, d'accord. Oui, il y a ça, on trouve ça dans le texte. Hein. Mais encore, l'autre, elle dit, béni soit l'Éternel. Donc, il y a... Tout n'est pas pur, c'est pas l'or pur.
C'est pas manichéen, c'est pas blanc et noir.
Exact.
Je pense que la motivation première, c'était pas l'accord de Dieu.
Non.
C'était, il y a un peu qui a réussi.
Mais c'est très semblable à certains qui viennent au Seigneur, soit par intérêt personnel, et puis qui découvrent la grâce de Dieu et qui comprennent mieux plus tard. Ou mon ami qui s'est converti suite à sa crainte de l'enfer, c'est pas la plus pure des motivations. On a une, mais elle est venue au Seigneur comme ça. Et après, il a découvert la relation avec Dieu. Mais d'abord, il voulait échapper au jugement. Donc, oui, tout à fait. Et tu as aussi dit que tout ça, c'est pour accentuer que nous n'arrivons pas nous-mêmes. Absolument. Si Dieu avait dit à Adam et Ève, écoute, vous avez fait une bêtise énorme là, mais j'ai une solution. C'est que mon fils, Dieu le Fils, va naître. Donc, Ève a porté sans la relation avec Adam, voilà, donc, vierge, pas vierge, mais sans la relation. Et donc, ce sera l'homme-dieu qui va être tué, peut-être par Caïn, hein, et donc ce sera le sacrifice pour le péché. On peut imaginer Adam dire, ah mais Seigneur, il n'y a pas besoin de ça, donne-nous une deuxième chance, tu verras, on fera mieux la prochaine fois. C'est notre attitude aussi en tant que chrétien, oui. Donc, tout l'Ancien Testament devient pour nous une leçon, comment dire, une leçon de choses, pas une leçon de choses, une illustration de notre cœur. Et il nous faut nous reconnaître dans les hommes et les femmes de l'Ancien Testament qui se sont détournés du Seigneur. Nous en sommes capables.
Hein?
Parce que le véhicule de la bénédiction de Dieu. Abraham, je ferai de toi une grande nation, et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Nous savons que la bénédiction, nous savons que la bénédiction ultime, c'est en Jésus-Christ, le Messie. Nous le savons. Mais quand on voit les païens venir à Jérusalem ou entendre parler et bénir Dieu, on voit ce qui aurait pu arriver, mais il est certain que si Salomon n'avait pas, s'était pas détourné de l'Éternel, ni Roboam, si après 3 ou 4 générations de bons rois et fidèles, la moitié de la terre avait envoyé les représentants et commencé à adorer Dieu comme à Jérusalem, il est certain, que Jésus serait venu et il serait devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça c'est Jean 1,19, mais un autre verset. Immolé avant la fondation du monde. C'est où ça? Quelqu'un peut me dire? Bon. Éphésiens 1, peut-être? Éphésiens 1? Quelque part? Pas immolé. Mais prédestiné à être un sacrifice. C'est ça que je veux dire. Donc, dès avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, Jésus, il ne s'appelait pas encore Jésus, Dieu le Fils, allait se sacrifier. C'est absolument certain que si Israël avait bien tourné, ça aurait eu lieu quand même. Oui, absolument. On va finir. Et après, pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté le projet s'il était accompli? Parce qu'il n'est pas accompli. Est-ce que le projet est réellement accompli? Quel était ce projet? Pas seulement de construire une nation, mais la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Je vais lire ce que j'ai en gras dans mes notes. Saisir l'importance de cette grande nation à l'apogée de sa gloire nous aidera à comprendre le reste de l'Ancien Testament et le message des prophètes. C'est quoi le reste de l'Ancien Testament? Vous connaissez déjà, ne lisez pas pour la première fois. C'est ils se détournent de l'Éternel après des siècles de patience. C'est l'effondrement de la nation. Mais il faut comprendre que c'est pas simplement une nation dans laquelle le Messie peut naître. C'est vraiment censé être le modèle, le phare pour attirer le monde vers Jérusalem pour que là ils apprennent la loi de l'Éternel. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Donc Israël est une miniature de cet objectif.
C'est pour ça que c'est ridicule.
oui, c'est ridicule. Oui. J'ai jamais entendu ça, mais bon. Ah, il ne faut pas dire aux gens qu'ils sont ridicules, mais on va dire, ben non, ça n'a pas de sens. Tout à fait, oui. Oui, ah oui, non, non. Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob pour que dans leur descendance et dans la descendance de David aussi, vous vous rappelez les deux généalogies, que le Messie naisse, que Dieu le Fils qui est co-éternel avec lui depuis toute éternité, qu'il naisse et devienne un homme. Pour moi, c'est le plus grand miracle. C'est dans la pensée de Dieu, et ça doit être Israël et pas ailleurs. Non, tout à fait. Et on a parfois du mal avec Israël à cause de la souffrance des Palestiniens. Il ne faut pas les opposer. Ce sont tous les deux des êtres chers à l'Éternel. Et Dieu veut sauver les Palestiniens, mais il veut sauver aussi les Juifs qui ne croient pas en lui. Moi, je ne les oppose pas. Je suis critique de certaines actions des Palestiniens qui ne seraient pas. Je suis aussi critique de certaines actions des Israélites. Et certains chrétiens ne sont pas assez critiques d'Israël. Et certains autres prennent le parti pour Palestine. J'ai un ami à Échirol, près de Grenoble, qui est contre Israël. Il soutient les Palestiniens. Il ne faut pas prendre parti comme ça. Pourquoi je parlais comme ça? Ben oui, parce que Israël, c'est le peuple choisi. Absolument. Ismaël est béni, vous le savez. Il y a des chrétiens aux États-Unis qui croient qu'il est maudit. Quand même. Ismaël est béni, mais ce n'est pas le fils de la promesse. Et les arabophones descendants d'Ismaël ou non, d'origine musulmane ou non, reconnaissent qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Je veux dire, ceux qui sont convertis. Hein. Comme Tony Malouf, comme Saïd Oujibou et d'autres, Mohand, voilà, que je connais, ils reconnaissent qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Mais il est béni. Et sa descendance est bénie. Donc il faut les bénir aussi. Hein. Voilà. Est-ce le moment que paraisse le Messie? Est-ce qu'il est sur le point de venir? Non. Pourquoi pas? Il y a autre chose qui va se passer. Vous connaissez, donc je ne vais pas vous surprendre, mais c'est quelque chose d'étrange, et quelque chose de terrible et de tragique. Tant qu'il faut souligner la puissance, la bénédiction, la richesse, la prospérité, la spiritualité d'Israël du temps de David et de Salomon, tant il faut accentuer la tragédie que va passer Israël avec Salomon II, on va dire, la deuxième partie, Roboam, Jéroboam et le reste. Tragédie, hein. C'est peut-être la deuxième plus grande tragédie de l'histoire humaine. La première, c'est la chute d'Adam et Ève. Nous quittons acte 1, scène 1. Acte 1, la nation, scène 1, la construction d'une grande nation. 12 étapes vers une grande nation, nous dirigeons vers acte 1, scène 2, quelque chose d'autre est sur le point d'arriver. Avant de passer à la scène 2 immédiatement, nous allons revoir un petit peu la scène 1, la fin de la scène 1 la prochaine fois. On va prendre 10 à 15 minutes pour voir ce qui est arrivé à Salomon. Ça, on y répondra au mois de mars. Ah, quelque chose de positif. Tu es presque en train de citer la personne que je vais citer. La punition n'est que l'élément négatif. Il y a toujours un élément positif dans ce que fait Dieu, même si quelque chose a dû subir une sorte d'écrasement. Et on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Parce que n'amende pas son projet. Rappelez-vous, les cadavres qui sont tombés dans le désert, et Dieu dit, de toute façon, j'accomplirai mon projet. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc, je crois, la prochaine séance, c'est la division des pays. Et la deuxième séance du mois de février, ce sera l'exil, la déportation et l'exil. Et au mois de mars, ce sera le retour. Et on va voir qu'il y a quelque chose de positif. Espérons, oui.